Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Bienvenue dans ce nouveau numéro du forum de Studio Kalangu qui a pour thème « Quel forage pour une meilleure qualité de l'eau à Niamey ?» Dans les dispositions du Code de l'eau du Niger, à son article 72, il est indiqué que l'eau livrée à la consommation des populations doit être potable. Les normes de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine sont fixées par voie réglementaire. L'accès à l'eau est devenu depuis quelques temps un problème majeur autour duquel les communautés se mobilisent. Cependant, ici à Niamey, depuis un certain temps, la population opte pour diverses sources d'approvisionnement en eau potable, telles que les forages à eau. Quelles en sont les raisons? Quelle est alors la qualité de ces installations qui approvisionnent la population en eau? Quelles sont d'ailleurs les normes à respecter avant la pose de ces forages? Et d'ailleurs, quel forage pour une meilleure qualité de l'eau? À ces questions et à bien d'autres, nous tenterons de trouver réponse au cours des 45 minutes que va durer cette émission. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Moussa Abdou Moumouni, il est le directeur général de l'Hydraulique. Bonsoir, M. le directeur.
Bonsoir, madame.
M. Ousmane Fandi, ingénieur hydrogéologue géophysicien à l'entreprise Forani spécialisée dans le fonçage des puits. Bonsoir, M. Fandi.
Bonsoir, madame.
La ville de Niamey, invitée, n'est pas encore venue. Je suis Nefis Adam Sirfa à la modération. Bonsoir à tous. Au Niger, moins d'un habitant sur deux a accès à l'eau potable selon les données du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. En 2022, 49% de la population urbaine bénéficie d'un service optimal d'eau potable contre 2% pour les populations rurales. Alors, je commence avec vous, monsieur le directeur général de l'Hydraulique. Est-ce que ces chiffres ont évolué ou pas à la date d'aujourd'hui?
Oui, merci madame pour cet honneur que vous nous accordez de pouvoir un peu expliquer ce que nous faisons dans l'ensemble sur la politique nationale de l'eau.
Mm-hmm, tout le plaisir est pour
et
nous.
Ces chiffres sont effectivement les chiffres officiels fournis par le ministère compétent, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.
Mm-hmm.
Et vous savez, ces chiffres, si vous les regardez, vous les analysez de très près,
oui.
C'est en fait, c'est lié d'abord madame, à l'accroissement démographique.
C'est-à-dire?
Parce que nous avons quand même, nous sommes un pays quand même où
la population multiplie.
Ça augmente.
Oui,
donc il faut tout à fait, tous les services de base quand même doivent suivre cette évolution, que ce soit l'eau, les autres, les écoles, la santé, c'est pareil. Donc il y a un autre aspect aussi qu'il faut voir, c'est la répartition de la population.
Oui.
Nous avons une population à dominante rurale. Donc, répartir sur un territoire assez vaste, là aussi ça complique, parce que s'il faut faire chaque point, un point d'eau à chaque village, vous voyez le nombre de points d'eau qu'il faut faire.
Effectivement.
Alors que dans les pays où c'est bien urbanisé, on essaie de mutualiser et faire des infrastructures par des grappes.
Et c'est en train d'être fait.
Nous sommes en train de le faire parce que nous sommes obligés, parce que nous ne pouvons pas faire un point d'eau pour chaque village. Surtout qu'une des contraintes que nous avons, c'est des contraintes naturelles. Nous avons des grands bassins sédimentaires, donc il y a des nappes assez profondes. Ça, c'est un des aspects. Et une autre contrainte naturelle, c'est qu'il y a des zones que nous appelons couramment des zones de socle.
C'est-à-dire?
C'est des zones où l'eau souterraine n'existe pratiquement pas.
Donc il faut nécessairement...
Il faut nécessairement faire un transport d'eau pour desservir ces populations.
Et cela nécessite beaucoup de moyens.
Ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de ressources financières que nous n'avons pas. Et nous sommes obligés de recourir à la coopération internationale.
D'accord.
Pour pouvoir financer ces ouvrages qui sont très chers.
Alors, monsieur le directeur, concernant la ville de Niamey aujourd'hui, quel est le taux de desserte en eau potable?
Pour la ville de Niamey, madame, je ne dirais pas voilà le taux exact qu'il faut donner, parce qu'il faut comprendre où est-ce que vous allez d'abord arrêter la ville de Niamey. Parce que nos projets au niveau de la ville de Niamey se font exclusivement à travers la SPEM. Et vous savez aussi la Société nationale du patrimoine des eaux. Donc, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre. Et les projets que nous le faisons, c'est à une date donnée. Entre la recherche du financement et la mise en œuvre du projet, déjà la ville a connu une extension latérale assez importante. Donc les projets qui sont en cours ne sont pas faits au quartier actuel, ne sont pas faits au quartier périphérique actuel, mais c'est plutôt à des quartiers antérieurs. Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir, le décalage entre l'extension de la ville et la progression des investissements.
Oui, comme je le disais, monsieur le directeur, à plus haut, depuis un certain temps, l'on constate la prolifération des forages à eau de la ville de Niamey, une source d'approvisionnement en eau pour, quotidiennement en eau pour ces populations. Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui explique cet engouement aujourd'hui autour de ces forages d'eau ici à Niamey?
Oui, en fait, madame, ce que vous venez de dire, c'est en lien à ce qu'on a discuté il y a quelques instants. Et l'engouement, c'est quoi? C'est que les réalisations, nos investissements que nous sommes en train de réaliser n'atteignent pas les quartiers périphériques. Il va de soi que lorsque vous avez déjà construit une maison, votre premier besoin, c'est l'eau d'abord.
Oui.
Donc ces personnes-là, du moment que l'État n'a pas amené l'eau jusqu'à la dernière parcelle de la ville de Niamey, ces personnes-là ont besoin de l'eau.
Mais l'État devrait amener cette eau.
Je viens, madame. Si on faisait cela réellement tel que ça doit se faire, on doit vous vendre la parcelle avec l'eau, avec les caniveaux, avec la route. Moi, je pense que tout le monde ne pourra pas avoir une parcelle et n'aura pas un logement. S'il faut effectivement que tous les services soient réunis, vous n'aurez pas de...
L'espace n'est pas assez suffisant.
C'est pas que l'espace n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de ressources pour faire des routes, pour désenclaver les dernières maisons qui sont à la périphérie de Niamey. Il n'y a pas de caniveaux pour assainir tous ces autres quartiers. Donc, il n'y a pas l'électricité encore dans ces quartiers. Mais vous comprendrez que si on doit mettre cette valorisation des terres, beaucoup de Nigériens n'auront pas une parcelle parce que le coût de la parcelle sera lié à tous ces services qu'on va amener, l'eau, l'électricité, la route, les caniveaux.
Mais vous saluez donc l'initiative, l'avènement de ces forages à eau, l'initiative de populations qui migrent ou pas?
C'est pas que je salue, je ne vois pas ça en termes du salut, mais ce qu'il faut dire, nous sommes d'abord un milieu urbain. Et les aquifères des milieux urbains, dès qu'on dit que vous avez des nappes autour d'une ville, dès qu'on vous dit une ville, il y a beaucoup d'impact sur la ressource. Et donc, ces impacts-là, ça va toucher à la qualité de l'eau.
Oui.
Alors, c'est pour cela que nous souhaiterions que les gens aient accès au service de la SIN, au service du réseau d'AEP. Parce que tout simplement, pour une simple raison, comme je vous l'ai dit, tous les effluents de la ville, que ce soit les déchets urbains, que ce soit les cimetières, que ce soit tout, ça finit par descendre en profondeur dans la nappe.
Nous allons donc aller en profondeur sur cette question dans notre deuxième partie, le temps de donner la parole à notre deuxième invité, M. Ousmane Fandi, qui est ingénieur hydrogéologue, hydrogéophysicien, autant pour moi, à l'entreprise Forani. Une entreprise qui est spécialisée dans le fonçage des puits, c'est ça, Monsieur Fandi. Alors, Monsieur Fandi, nous parlons aujourd'hui de l'accès à l'eau à travers les forages. Et c'est une de votre spécialité. Les forages même, qu'est-ce qu'on entend par forage aujourd'hui?
Merci, madame, de nous avoir donné la parole de nous exprimer par rapport à ça. Donc, le forage en tant que tel, ce qui est forage, faire un trou, donner de l'eau. Mais maintenant... Le forage en tant que tel, c'est un trou qu'on doit faire à partir de la surface de la terre, aller atteindre l'aquifère. L'aquifère, c'est la partie du sol qui donne de l'eau mobilisable. Donc, et fournir de l'eau
à la population.
Mais pour faire ça, il y a un certain nombre de normes qu'il faut respecter.
Oui, justement, avant d'arriver à ces normes, dans certaines localités, la population s'approvisionne en eau de puits. Est-ce qu'il y a une différence entre un puits et un forage?
Un puits et un forage, la différence, c'est peut-être dans certaines conditions, c'est le diamètre. Mais le puits, généralement, capte la nappe phréatique. La première nappe qui est sujette à la pression atmosphérique. Mais le forage, tu as la possibilité d'aller à la nappe beaucoup plus profonde. Deux fois, nous, par exemple, à notre niveau, quand tu nous dis, tu viens, tu dis, tu veux un forage, nous allons dire dans quelle zone et où se trouve l'étude géophysique qui a été exécutée pour faire ce forage. Vous allez nous amener l'étude géophysique, on va voir comment on l'appelle, la profondeur et les caractéristiques même de la formation. Par exemple, il y a la formation, il y a les zones de socle, comme il le dit, il y a les zones du bassin sédimentaire et autres. Pour toutes ces zones, on a, comment on l'appelle, des manières de faire.
Oui, justement, donc, il y a une expertise à faire avant le fonçage. Il y a une expertise. De votre côté, quelle est cette expertise que vous faites, vous, votre
entreprise? Nous, on demande à ce qu'on nous fasse une étude hydrogéologique et géophysique pour déterminer...
Un spécialiste de la question?
Il y a ceux qui font les études géophysiques. Avant même d'exécuter le forage, on demande d'abord, nous, ce qu'on demande, c'est l'étude hydrogéologique et géophysique qui nous permet d'implanter le forage et ça nous permet de connaître la formation géologique en place pour nous préparer et aller exécuter le forage. Mais avant tout ça, normalement, eux, ils devraient s'adresser aux services compétents pour avoir l'autorisation et tout.
Oui, ça, ce sont les services des communes, des arrondissements. Nous avons voulu avoir justement la ville de Niamey, mais le représentant n'est pas venu. Mais vous, au niveau de votre entreprise, quelle est la démarche réelle à faire pour...
On nous donne l'étude hydrogéologique, on nous donne la profondeur, nous allons partir exécuter. Mais dans la ville de Niamey, nous tenons compte de notre norme. Dans la ville de Niamey, nous exécutons le forage dans les normes.
Et quelles sont ces
normes? Les normes, c'est quoi? Dans la ville de Niamey, il y a deux nappes. Il y a la nappe phréatique, dont il parle maintenant, qui est sujette à la pollution. Toutes les fosses septiques sont là-dessus. Maintenant, tout celui qui va faire un forage de 20 mètres, 30 mètres, pour donner de l'eau à quelqu'un, il donne à la nappe phréatique, qui est polluée. Mais nous, maintenant, nous savons qu'il y a une autre nappe en bas, la nappe de socle. Il y a les deux nappes, la nappe de CT, de la formation du continental, et la nappe de socle. Maintenant, nous allons forer dans la norme pour aller dépasser la nappe phréatique là. Entre la nappe phréatique et la nappe du socle, il y a un banc d'argile et de kaolinite et autres par endroits qui séparent les deux nappes. Maintenant, arrivé là, on tube, on frappe au marteau le socle pour donner de l'eau saine. Maintenant, au droit de cet aquifère de socle, on met les crépines et juste au-dessus, on met le tube plein. À partir de là, on isole la nappe phréatique.
Vous faites ça aujourd'hui à combien?
60 mètres, au-delà de 60 mètres.
Au-delà de 60 mètres,
tu peux une eau de qualité, tu peux trouver, il y a des endroits où tu peux aller jusqu'à 100 et quelques mètres. Par exemple, à l'est, vers Soraï et autres, c'est sur le plateau, tu peux aller jusqu'à 90 à 100 mètres.
Merci. Alors, monsieur le directeur, vous venez donc d'entendre cette entreprise qui est spécialisée dans le fonçage, qui va au-delà des mètres que font certaines entreprises. Ils vont jusqu'à 60 mètres aujourd'hui. Est-ce que ce sont les normes à respecter pour le fonçage d'un forage ici à Niamey?
Oui, en fait, madame, je ne dirais pas normes ou normes, parce que normes, c'est encore trop dire. Et si vous voulez une eau exempte de pollution, il faut naturellement aller à la nappe profonde.
Oui.
Puisque la nappe phréatique, qui est la première nappe, elle est dans l'emprise de la ville, c'est au-dessus de cette nappe.
Oui.
Toute la ville repose sur la nappe phréatique.
Mm-hmm.
Alors, lorsque vous avez une ville comme Niamey, mais regardez les différentes activités qui se déroulent dans la nappe, dans la ville.
Dans la ville, oui.
Il y a les stations d'essence. On enterre des fuites de carburant dans le sous-sol. Il y a les décharges publiques. Il y a encore, comme il l'a dit, dans chaque maison, il y a au moins une fosse septique. Alors, si vous mettez tout ça en jeu, c'est quand même des déchets immenses qui affectent la nappe. Donc, vous ne pouvez pas parler d'une eau potable qu'il faut extraire à partir de cette nappe.
Mais vous pensez que la démarche que suivent ces entreprises est la meilleure ou la bonne?
Non, ce n'est pas des démarches qu'elles suivent. c'est par rapport à votre objectif. Si vous voulez de l'eau potable, vous êtes obligé de mettre les moyens pour pouvoir arriver à votre fin. Les entreprises ne vous imposent rien.
Mais est-ce que au niveau des autorités en charge de la question de l'eau, il y a des normes qui sont fixées pour être respectées par ces entreprises?
Madame, en fait, d'ailleurs, il faut bien se comprendre.
Oui.
Nous sommes ici dans la ville de Niamey, dans un domaine à fermer. Il n'y a que la SIN
qui est auto...
ou la Nigérienne des eaux aujourd'hui qui est habilitée à vendre de l'eau. Donc on ne peut pas rendre licite quelque chose qui est déjà illégal dans les faits. Si aujourd'hui quelqu'un vend de l'eau dans les quartiers périphériques, c'est pas normal, c'est illégal.
Mais pour les forages, ce sont, c'est pour l'usage quotidien du
même concerné. Si c'est de l'usage quotidien. Mais madame, lorsque quelque chose qui ne répond pas à une réglementation donnée, vous ne pouvez pas encore essayer de légitimer cela. C'est là la question. Je vous donne un exemple.
Donc aujourd'hui, si on peut comprendre cette construction des forages, elle est illégitime.
C'est tout à fait normal, c'est illégitime, sans autorisation, parce que la plupart de ces forages n'ont pas d'autorisation.
Donc il y a une autorisation que le ministère...
Mais bien sûr, vous devrez déclarer. Il y a des trois régimes. Il y a le régime de déclaration, il y a le régime d'autorisation et le régime de concession. Donc la loi a bien spécifié.
Et c'est en train d'être respecté par les usagers.
Mais comment les usagers? Nous, on a popularisé ça. Vous savez, nous avons commencé le processus de code de l'eau depuis 1997. Et en 2010, il y a eu l'ordonnance. Mais depuis ça, là, nous avons fait plusieurs sessions de vulgarisation avec tous les maires depuis 2010. Donc nous estimons que aujourd'hui, si un citoyen pense qu'il n'est pas informé, ce n'est pas une raison aussi de violer la loi. Du moment que ça a eu la popularisation, ça, on a mis dans le journal officiel, ça, on a fait des séances de formation au niveau des maires. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ignorer cela.
Alors, pour construire un forage, il faut préalablement avoir une autorisation du ministère. Est-ce que vous, au niveau de votre entreprise, vous vous assurez que l'usager a cette autorisation avant que vous lui construisez ce forage?
Non. Nous, l'autorisation, c'est le demandeur qui va, entre le demandeur et l'État. Nous, on nous demande de venir faire le forage. Tout ce que nous demandons, c'est si là, le moyen de faire le forage dans les règles. Et nous sommes des commerçants. Voilà le prix du forage. Nous allons faire le forage. Mais voilà la norme qu'il faut utiliser, la règle qu'il faut utiliser pour que ça soit dans la règle de l'air. La réglementation, l'autorisation et autres, ça relève du demandeur et de l'État.
Mais vous ne pensez pas que vous devrez...
Non, on ne te demande même pas. Ça là, c'est entre l'État et vous.
D'accord. Mais le forage en tant que tel aujourd'hui, comment il fonctionne même?
Le forage, dans la majorité des cas, ici, le forage, ils ne sont pas dans la règle de l'art. C'est quoi la règle de l'art? Comme il est dit, la nappe phréatique est polluée. Et les gens, à cause du faible coût du forage, du petit forage, ils amènent des gens avec des machines tractées, ils font des petits forages de 15 mètres, 20 mètres.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, la majorité de ces forages qu'on voit à Niamey, ce n'est pas une eau de qualité?
C'est même un danger public. C'est pour vous dire que c'est un danger public. Je vais vous donner un exemple. Toute une eau, ou la fosse septique qui est à côté de toi, ton forage est à 20 mètres. Tout ce que vous avez dans la fosse septique va sur le immédiatement, quoi. Sans compter les décharges publiques, tout ce qui se passe à l'intérieur de la ville, même à côté de chez toi, tous tes voisins ont des fosses septiques. Et ces fosses septiques sont d'autres beaucoup plus profondes, d'autres ne sont pas profondes, mais sont sur la nappe phréatique, sur cette nappe que vous allez capter. Captez cette nappe, vous prenez l'eau. Même quand vous amenez à l'analyse physico-chimique, parce qu'après ça, on prend l'eau, une quantité d'eau après soufflage.
Justement,
on amène,
j'allais poser la question, oui.
Oui, amener à l'analyse physico-chimique. L'analyse physico-chimique, c'est un certain nombre d'éléments standards qu'on examine. Mais on ne peut pas examiner ce que tu n'as pas demandé. Ce que tu n'as pas demandé là sont plus nombreux que ce que tu as demandé. C'est juste toi.
Mais est-ce que juste après l'implantation du forage et après le contrôle, l'eau, elle est destinée à la consommation?
Il faut traiter. Si la nappe est isolée, c'est la nappe du socle qui n'est pas en contact avec la nappe phréatique, que tu as capté, l'analyse physico-chimique, ça suffit pour voir s'il n'y a pas un élément qui joue à la longue, à la santé.
Et comment se fait le traitement?
Le traitement, là, c'est le dosage de l'eau, c'est la Seine seulement qui fait ici maintenant. Mm-hmm. Personne d'autre.
Le traitement de l'eau de forage aussi, c'est la Seine qui le fait?
Non.
Voilà, expliquez-nous.
L'eau Seine à boire dans la ville de Niamey, mm-hmm, aujourd'hui, c'est l'eau de...
On sait que c'est l'eau de la Seine, mais l'eau du forage aujourd'hui, juste après l'implantation, est-ce que la population peut la consommer comme ça? Est-ce qu'il y a un traitement à long terme ou bien on peut continuer à la boire pendant des années? Comment ça se fait?
Non, y a, on ne peut pas boire l'eau de forage comme ça. Je vous dis que déjà, dans la psychologie de l'individu qui, mm-hmm, exploite, il y a ce phénomène-là que toutes les forces sont là-dessus. Mm-hmm. Et il y a des éléments qu'on ne peut pas analyser et qu'il y a dans l'eau. Mm-hmm. Tu vois, développer des maladies que tu ne connais pas. Mm-hmm. Parce que c'est un laboratoire de chimie que tu as chez toi. Mm-hmm. Tout ce que tu consommes comme produit, comment on l'appelle, produit chimique.
Chimique, oui.
Pour les médicaments et autres. L'organisme prend ce dont il a besoin et rejette tout.
Et c'est de temps à autre que le contrôle doit être fait, le traitement?
Oui, le contrôle. Les éléments qu'on contrôle là, mm-hmm, n'intègrent pas tous les éléments,
d'accord,
qui sont dans le...
Alors, monsieur le directeur, la majorité des forages implantés ici à Niamey ne donnent pas une eau vraiment de qualité, à entendre le représentant de la Forani. Mais ces ouvrages-là, ils ne sont pas soumis sous des contrôles de temps à autre après l'autorisation donnée par le ministère?
Merci, madame. En fait, lorsqu'on exploite un puits ou un forage, donc c'est une ressource naturelle. D'abord, mm-hmm, vous avez votre parcelle, mm-hmm, l'acte de succession que le maire vous produit, vous fournit après l'achat de la parcelle. Mm-hmm. Prenez soin de lire l'acte de succession.
Voilà.
Dans l'acte de succession, il n'est nulle part dit que l'eau souterraine qui est sous votre parcelle vous appartient. Mm-hmm. La ressource en eau fait partie du patrimoine naturel de l'État. Mm-hmm. Vous avez le foncier, vous n'avez pas l'eau souterraine. Voilà pourquoi si vous allez prélever, vous êtes obligé de déclarer. Et mieux, si vous dépassez un certain seuil, vous êtes obligé d'attendre une autorisation. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez compris,
oui,
les contraintes.
On comprend, oui.
C'est parce que l'acte de succession ne vous donne pas droit immédiatement à partir de l'acte de succession de prendre l'eau souterraine qui est en dessous de votre parcelle. Mm-hmm. Vous êtes obligé de faire recours à une... D'abord déclarer votre besoin et d'attendre encore l'autorisation.
De vie.
Parce que ça ne fait pas partie de la parcelle que vous avez payée.
Effectivement.
Donc voilà pourquoi vous êtes
on
obligé.
On le voit même, c'est à la devanture de la maison. La...
Non, laissons tomber, on va aller. Mm-hmm. Alors, lorsque vous allez pomper l'eau dans une nappe phréatique, mm-hmm, il y a ce qu'on appelle le périmètre de protection. Mm-hmm. Parce que lorsque vous pompez, vous faites appel à toutes les eaux qui sont aux alentours du forage. Donc vous pouvez faire solliciter les eaux qui sont même à 100 mètres du forage, mmh, qui peuvent venir dans votre parcelle. Mmh. Alors 100 mètres de forage, ça veut dire quoi?
Oui.
Parce que vos parcelles, c'est généralement des parcelles de 400 mètres carrés.
Effectivement.
Ça veut dire que c'est 20 mètres sur
d'autres
20.
D'autres 300 même.
C'est 20 mètres sur 20, mmh, ou 20 mètres, ou 15 mètres sur 25. Mmh. Vous entendez bien?
Oui.
Mais 15 mètres, 20 mètres... C'est pratiquement le 1/5 de la distance de 100 mètres que j'ai annoncé.
Mmh,
mmh. Hein? Mmh. Donc, les 100, tout autour de 100 mètres là, il ne doit pas y avoir une fosse septique. Il ne doit pas y avoir un point de pollution.
Malheureusement, c'est ce qu'on constate.
Parce que dans la parcelle, la parcelle elle-même, c'est 20 sur 20.
Mmh.
Alors que moi, je vous ai dit que vous faites recours à des eaux se trouvant jusqu'à 100, 200 mètres.
Mmh, mmh.
Ça dépend de la perméabilité du terrain.
Mmh.
Alors, si votre parcelle est de 20 mètres sur 20, ça veut dire que vous allez faire appel à des eaux à l'intérieur de 20 mètres seulement. Et c'est à l'intérieur de ces 20 mètres que vous placez votre fosse septique. Et le voisin qui est contigu à vous, juste derrière le mur, il peut placer aussi sa fosse septique. Vous ne pouvez pas l'y empêcher. Donc, il se trouve que vous n'allez pas réunir les conditions idéales de préservation de la qualité de l'eau de votre forage.
Oui.
C'est pas possible dans le plan d'urbanisme qu'on a là, dans le plan de lotissement qu'on a là, mmh, vous ne pouvez pas préserver la qualité de l'eau. C'est pourquoi il est prohibé en milieu urbain de faire des forages. Vous êtes obligé de faire un champ de captage en dehors de la ville, hein,
mmh,
exempt de toute pollution, et on refoule l'eau dans la ville.
Il est donc prohibé de faire un forage en milieu urbain sans autorisation.
Rien, c'est pas possible, madame. Et parce qu'on est en milieu, comme
voilà,
je le disais.
Il est prohibé de construire un forage en milieu urbain face à tout ce que vous venez de dire. Mm-hmm. Mais pourquoi le ministère continue de donner des autorisations?
Non, madame, le ministère ne donne pas des autorisations. Parce que je sais pourquoi je l'ai dit. S'il y aura autorisation, le papier va passer devant moi.
Donc il n'y a plus d'autorisation?
Il n'y a pas d'autorisation parce que nous faisons...
C'est clandestinement?
Tous ces forages sont, nous les appelons des forages clandestins. Tous ces forages sont des forages clandestins, madame. Mm-hmm. À peine 10% de ces forages qui sont dans la ville de Niamey ont des autorisations. Et ça aussi, après un certain temps, il faut renouveler. Beaucoup ne renouvellent pas parce qu'il faut voir les conditions dans lesquelles nous avons. Mm-hmm. Est-ce que ces conditions persistent encore?
Mais aujourd'hui, que fait donc le ministère pour stopper cette activité, si je peux le dire? Parce que c'est pas une eau de qualité. Mais qui est en train d'être donnée,
madame,
à la population.
Avant, qu'est-ce que le stopper, ministère... Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas promouvoir quelque chose, madame, mm-hmm, en ignorant les textes vous-même. Mm-hmm. Le bon citoyen, lorsqu'il doit faire quelque chose, il doit dire, mais qu'est-ce que dit la réglementation?
Oui.
Mais vous ne pouvez pas aller foncer sans vous tenir contre la réglementation, vous faites des ouvrages. Donne un exemple.
Oui.
Est-ce que toute femme est habilitée à aller vendre des beignets devant une école?
Non, il faut une autorisation au préalable.
Voilà.
Mais le paradoxe ici, même avec l'autorisation, on sait que la majorité de ces forages ne donnent pas une eau de qualité. Donc, pourquoi le ministère doit arrêter cela ou bien faire un suivi? Pour ceux qui sont en train de le construire clandestinement aujourd'hui.
Nous sommes dans une situation, surtout les années antérieures, mm-hmm, où l'État est faible. Vous savez qu'on dit depuis les années 1990, avec la vague de la démocratie,
mm-hmm,
les gens riment démocratie avec désordre.
Voilà.
Vous voyez, mm-hmm. Donc c'est tout à fait normal. Les gens n'ont pas compris les textes.
Mm-hmm.
Ils pensent que c'est un banc de liberté où chacun peut s'installer là où il veut et forer comme il veut.
Alors, c'est interdit vraiment de construire un forage en milieu urbain. Ça aura un impact sur votre activité aujourd'hui. Vous continuez de construire pour les usagers, pour le demandeur, bien que c'est interdit.
Nous faisons les choses dans la règle de l'art.
Mm-hmm.
Et la règle de l'art a un coût. Et les matériaux qu'il faut mettre, c'est des matériaux de qualité que nous mettons.
Mm-hmm.
Donc, ça a un coût. Les gens, non seulement ils ne peuvent pas, certains individus ne peuvent pas, c'est juste ils partent. Demander aux gens de faire des faibles coûts, faibles profondeurs. Mais nous faisons nos activités, c'est en dehors de Niamey, dans les jardins et autres. Ça, c'est la nappe de socle. On part, on capte là.
D'accord. Alors, oui, monsieur le directeur.
Et lorsqu'on vous dit qu'une eau est potable,
mm-hmm,
elle répond au minimum à deux examens.
Mm-hmm. Et quels sont ces examens?
Le premier examen, c'est l'analyse physico-chimique.
Mm-hmm.
Le deuxième examen, c'est l'analyse bactériologique. Il faut prouver que l'eau est exempte de toute bactérie. Donc, il faut avoir ces deux examens. C'est sur la base de ça qu'il faut d'abord autoriser. Même en milieu rural, nous exigeons ces analyses. Alors, lorsque vous avez votre forage à moins de 100 mètres, et surtout en général, hein,
oui,
je vous dis 70% des forages là, en milieu urbain, sont à 20, entre 5 et 10 mètres de fosse septique. Donc cette distance ne te permet pas
d'avoir une eau de qualité.
D'accord.
Alors, le président du réseau pour l'eau et l'assainissement, le REGEA, s'est également prononcé sur cette question de prolifération des forages à eau à Niamey. On écoute Ousmane Dambaji.
Il faut dire que c'est une question normale. Elle est normale parce que les populations n'ont pas d'autre choix que effectivement de se référer à cette pratique naturellement qui consiste à les garantir une eau, même si elle n'est pas potable. Parce que là où l'État doit amener l'eau, si l'État n'a pas eu le moyen d'amener l'eau, les populations ne vont pas rester comme ça. Elles sont obligées de se mobiliser, ou ceux qui ont le moyen trouvent des solutions endogènes ou des solutions alternatives pour avoir de l'eau. Mais ce que l'État a dit, c'est pas interdit de faire un forage ou de foncer un puits si vous avez les moyens, mais c'est de vous rapprocher du service technique. Si vous créez un forage sauvage, selon les normes, vous contribuez aux côtés de l'État à donner de l'eau à une communauté. Parce que quand vous le faites chez vous, c'est pratiquement tous les quartiers qui en consomment. Donc c'est une contribution énorme. Vous construisez ou vous foncez un puits là où l'État n'a pas fait, c'est une contribution à l'État. Mais il faut que ça soit dans les normes. Quand ce n'est pas dans les normes, vous contribuez à détruire le tissu social ou à détruire le tissu sanitaire de millions de personnes. Parce que toutes les personnes qui vont consommer cette eau vont tomber malades. Donc vous avez contribué à leur malheur. Mais quand ce bienfait, vous avez contribué à leur donner des sourires aux lèvres en contribution à ce que l'État est en train de faire. L'eau n'est pas une petite chose. Il faut en tout cas des suivis techniques chaque 6 mois, chaque 3 mois, pour voir est-ce que l'eau n'est pas contaminée. Mais malheureusement, ce que les gens font, les gens ne savent pas à quel mètre ou à quelle profondeur il faut foncer ou il faut creuser. Ils peuvent le faire et ça peut être à côté des fosses septiques. Et toute l'eau que vous consommez, vous allez consommer l'eau des fosses septiques de vos voisins. Et cela peut constituer un danger majeur pour votre santé, pour toute la famille et pour tout le quartier. Donc voilà pourquoi nous disons, effectivement, ce n'est pas interdit, mais d'aller voir les techniciens.
Alors c'était là donc le président du REGEA, le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement, Ousmane Dambadji. Alors monsieur le directeur, quelle réaction après écoute?
Oui, en fait, monsieur Dambadji n'a fait que nous compléter.
Voilà, madame.
Il n'y a pas de contradiction dans ce que nous avons dit.
Effectivement.
Donc il faut faire les choses dans les règles de l'art, comme on l'a dit, mais en fait tout en sachant que nous ne pouvons pas encourager un milieu urbain à fermer, parce qu'il n'y a que la Chine, comme j'ai dit, la Nigérienne des eaux maintenant, qui est habilitée à fournir de l'eau, en tout cas de l'eau potable à la population. Donc à partir de cet instant, tous les investissements que nous faisons, c'est toute la population qui est visée par rapport à ça. Donc on ne peut pas laisser un autre prestataire à côté qui va fournir une eau qui n'est pas de qualité. Et encore mieux, madame, c'est qu'il faut comprendre. Il y en a même qui sont arrivés à connecter les forages au réseau de la Chine.
Clandestinement.
Alors que l'eau même du forage n'est pas certifiée bonne, puisqu'il n'a même pas d'analyse. Je vous
donc
dis,
cela peut
90%.
Impacter sur cette eau de la Chine également.
Mais bien sûr, madame, lorsque vous mettez dans le circuit, si vous prenez l'eau au moment où il y a une baisse de pression au niveau de la Chine et que vous consommez cette eau et que cette eau contient des germes, mais madame, vous aurez toutes les maladies qu'il y a. Que ce soit les amibias ou autre, là, vous allez votre santé en pâtira.
Alors vous, monsieur Ousmane Fandi, de la Forani, de l'entreprise Forani, est-ce qu'aujourd'hui, un forage a une durée de vie même?
Bien sûr, tout a une durée de vie. Tout a une durée de vie. Mais ça dépend de qualité de matériel que vous allez mettre dans le forage. Il y a des forages que nous connaissons depuis avant l'indépendance. Par exemple, les forages de recherche qui sont jusqu'à aujourd'hui exploités, c'est des forages qu'on a construits quand même il y a un certain temps. Mais il y a des forages qui n'ont pas duré 10 ans. Il y a des forages qui peuvent durer 5 ans et puis c'est fini. Donc ça dépend du sérieux et du matériel que vous mettez dans le forage au moment de la construction. Et c'est ça, c'est le demandeur qui doit dire, voilà moi ce que je veux qu'on mette dans mon forage. Et l'hydrogéologue va dire, voilà l'aquifère qu'il faut capter. Et cet aquifère est compatible à l'acier, cette carrière est compatible avec les PVC et autres. Le matériel qu'il faut mettre, t'es dit, l'hydrogéologie t'es dit ça, tu mets et ça dure autant que c'est possible.
Aujourd'hui, au niveau de votre entreprise, quel est le suivi que vous faites après l'implantation du forage que vous faites aux demandes? Quel est aujourd'hui le suivi que vous faites?
Non, le suivi, c'est pas nous. Le suivi, normalement, c'est le propriétaire. Nous, ce que nous faisons, vous nous demandez de faire le forage, on va faire le forage dans la règle de l'art pour vous donner. La suite, dès qu'on plie l'élément, c'est fini, on a fini avec vous. Maintenant, c'est à vous d'aller continuer le suivi régulier de votre eau.
D'accord, apparemment vous voulez réagir, monsieur le directeur.
Madame, nous n'allons pas suivre des forages clandestins, des forages que nous n'avons pas autorisés. C'est pas de notre ressort. Donc déjà, c'est déjà clandestin. Donc, évitez-nous cela. Le promoteur, il doit s'en occuper. Ce qu'il faut comprendre, madame, même en dehors des questions religieuses, lorsque vous allez donner de l'eau, vous êtes tenu de savoir qu'est-ce qu'elle contient cette eau avant de la donner.
Effectivement.
C'est ça la transparence. Tout vendeur, tout produit qui se vend sur le commerce, il y a quand même la composition qui est notée sur le paquet, sur l'emballage. Donc vous partez, vous faites un forage chez vous, dans les quartiers périphériques, et vous donnez à toute une population de l'eau dont vous ne connaissez pas ce qu'elle contient, et vous voulez accuser l'État. Vous avez une fois entendu parler de ce qui s'est passé à Tibéri?
C'est quelle situation?
Lorsque les enfants ont été fluorés, plus de 600 enfants handicapés pour avoir consommé une eau de mauvaise qualité.
De mauvaise qualité, oui.
Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc toute eau qui sort du sous-sol ne veut pas dire qu'elle est bonne.
Donc
ces promoteurs doivent comprendre cela.
Nous allons donc observer une courte pause avant de poursuivre. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, donc nous parlons de la prolifération des forages à eau ici à Niamey et surtout nous nous interrogeons sur la qualité de l'eau de ces forages et si ces forages également sont construits sur les normes. Alors dans cette dernière partie, nous sommes donc dans la dernière partie, il sera question de faire des propositions et surtout de donner des conseils aux propriétaires, aux demandeurs des forages. Alors je commence avec vous, monsieur le directeur, aujourd'hui, quelles sont vos recommandations pour vraiment pour toute la population, pour ces entreprises, bien que ce soit une activité illégale en milieu urbain?
Non, madame, en fait, il n'y a pas autre solution que de se conformer à la réglementation. L'État a bien légiféré. Nous, on a des textes qui sont très bien affinés par rapport à ça. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui promouvoir la réalisation d'un forage tout en ignorant les textes. Donc, il faut vous approcher des services publics qui vont vous orienter dans ce qu'il est possible de faire. Par exemple, pour ce que je disais tout à l'heure, pour vos parcelles de 400 mètres carrés, 200 mètres carrés, c'est même illusoire de penser qu'on peut faire des forages dans ces zones, parce que vous aurez à faire face, au-delà de votre fosse septique, mais même celle des voisins limitrophes. Donc, toutes ces fosses septiques sont dans le périmètre de protection. Ça veut dire que lorsqu'on parle de périmètre de protection, il n'y aura rien autour de ça,
effectivement,
madame.
Effectivement.
Donc vous, et le lotissement actuel ne le permet pas. Parce qu'il faut que chacun a besoin de 200 mètres carrés pour s'installer. Donc vous n'avez pas 100 mètres de distance entre votre forage et votre fosse septique.
D'accord. Aujourd'hui,
Ça, il faut exclure cela.
D'accord.
Et les investissements que nous faisons au niveau de la ville de Niamey, c'est à long terme. On prévoit sur 10 ans. Tout ce qu'on fait, au minimum, c'est les 10 années. Donc, chaque année, ça progresse. En fonction du taux de financement, nous essayons de satisfaire au maximum la population. Actuellement, nous sommes en train d'augmenter la production en faisant une station actuellement à Karigoro.
À Karigoro, oui.
Voilà. Donc, nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts au niveau de la SPEN. Tout simplement, c'est dans le sens d'augmenter encore le taux d'accès à l'eau potable au niveau de la ville de Niamey. Donc, ce n'est pas une raison qu'un citoyen, quand même, fasse des forages, en tout cas, qui ne sont pas dans les règles, et vouloir alimenter tous les voisins de la zone.
Mais monsieur le directeur, aujourd'hui, est-ce qu'il existe des sanctions pour ceux qui ne respectent pas la norme?
Oui, madame, en fait, le code de l'eau a prévu tout cet aspect-là. Je vais vous lire quelques articles que vous allez comprendre. Ils sont punis d'emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 1 million de francs CFA à 2 millions de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, sans autorisation prévue aux articles 44 et 46 de la présente ordonnance, auront entrepris des aménagements, des activités, des travaux de construction d'ouvrages et d'installations.
Donc il y a des sanctions.
Je vous donne encore celle qui est prévue à l'article 98. Seront punis d'emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 30 000 francs ou 300 000 francs ou l'une des deux peines seulement, ceux qui auront déposé des immondices, des ordures ménagères, des pierres, des graviers dans les lits des cours d'eau.
Mais est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a déjà des gens qui ont été sanctionnés?
Bon, vous savez, madame, on n'a pas encore mis en place une véritable police des eaux.
D'accord.
C'est la police des eaux
qui doit
faire cela, ce travail-là. Et pour faire ce travail, il faut être assermenté. Donc, pour le moment, nous sommes en train de revoir le code de l'eau pour permettre à nos agents d'être assermentés.
D'accord.
Si vous rentrez dans la construction de quelqu'un ou dans le jardin de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas assermenté, vous n'avez pas la protection.
Effectivement.
Vous voyez ce que ça va venir?
Et il faudrait aussi le rappeler pour toute la population, vous le disiez, à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucune autorisation qui est en train d'être donnée pour la...
J'ai dit qu'il y avait une étude qui a été faite en 2015 sur la base des résultats de cette étude à l'époque. Et de nos jours, c'est même les résultats sont encore plus désastreux. À l'époque, il y a 88% des ouvrages qui n'ont pas d'autorisation. Seuls certains services ou certains hôtels qui ont compris la nécessité, qui ont demandé des autorisations. Mais la plupart n'ont pas d'autorisation. Et ce qui est mieux, madame, c'est qu'il faut comprendre. Certains quartiers, je prends le cas de Telagui et autres, Lorsque le service d'eau est arrivé, lorsqu'on a fait les réseaux d'AEP, il y avait des puits qui ont été transformés en fosses septiques. Des puits entiers qui sont transformés en fosses septiques.
C'est la vie de la population qui
est endommagée. Et ça, ça veut dire quoi? C'est comme si vous prenez une seringue, vous injectez un poison sous l'épiderme.
C'est dangereux.
Ça veut dire que la pollution et la défection est directement dans la nappe. Donc la nappe est polluée. Tous les quartiers, tous les vieux quartiers là que vous voyez, que ce soit Bendeberi, que ce soit Bukoki et autres là, tous les forages qui sont dans cette zone, dans ces quartiers anciens, c'est des zones de pollution, c'est des forages pollués. La nappe est polluée dans cette zone. Il n'y a que dans les quartiers périphériques qu'il faut espérer. Mais même ça, après 10 années, parce que madame, vous commencez votre foyer, votre couple avec votre mari, mais 15 ans, 20 ans, de deux, vous êtes à 10. Mais il faut voir la quantité d'excréta qu'on évacue chaque jour.
L'impact des activités humaines sera énorme, oui.
Et ensuite, la prolifération des stations d'essence.
Alors vous,
les décharges publiques, décharges même, vous avez vu qu'on n'évacue pas. Il y a toujours des quantités de décharges avec la pluie qui tape. Et le jus là, ce jus là, ne fait que s'infiltrer.
D'accord, merci bien, Monsieur Fandi. Aujourd'hui, quel est l'appel que vous pouvez donner aux consommateurs de l'eau de forage, aux demandeurs de forage?
Aux demandeurs de forage, c'est de demander à ce qu'on fasse le forage dans la règle de l'art. Isoler carrément la nappe phréatique et prendre l'air. Pour ceux qui sont en Niamey, ils ont cette possibilité. Il n'y a pas que la nappe phréatique, la nappe de CT, du Continental Terminal. Il y a la nappe du socle. Vous faites l'étude, on vous dit voilà là où se trouve le socle fracturé ou altéré. Maintenant, vous allez faire le forage tout en isolant la nappe phréatique. Et faire un suivi régulier jusqu'à ce que, comment on l'appelle, l'agglomération arrive à vous stopper.
D'accord. Voilà. Merci bien.
Il faut au moins un forage de plus de 70 mètres. De 60 à 70 mètres. Mais un forage de 10-20 mètres là, que les Nigériens évitent.
Monsieur le directeur, pour terminer avec vous, en un mot aujourd'hui, que dire à la population pour ceux qui souhaitent avoir des forages, pour ceux qui ont les forages, en un mot, que pouvez-vous leur dire pour terminer?
Bon, en fait, madame, ceux qui veulent faire des forages, il faut toujours se rapprocher des services techniques.
D'accord.
Pour prendre les conseils nécessaires et ensemble voir la solution la plus appropriée.
D'accord.
Mais ça peut ne pas être une solution à l'échelle d'une famille, c'est peut-être à l'échelle d'une communauté et ça, c'est ensemble avec les maires qu'il faut voir comment faire, chercher des espaces plus appropriés. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, il faut nécessairement des périmètres de protection.
D'accord.
Les forages ne doivent pas se trouver à l'intérieur des concessions ou sur les voies publiques, non. C'est des périmètres appropriés, des champs, ce que nous appelons des champs de captage, exempt de toute pollution.
D'accord.
C'est là qu'il faut installer les forages et alimenter la ville en eau. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir ces champs pour la ville de Niamey parce qu'autour de Niamey, il n'y a pas la ressource en eau nécessaire.
Merci, merci donc, chers invités. C'est ici donc que s'achève ce forum de Studio Kalangou. Il est donc prohibé de faire un forage en milieu urbain du fait des activités humaines qui impactent sur la qualité de l'eau. Et selon le directeur général de l'hydraulique, il n'y a que la Nigérienne des eaux qui est la seule habilitée à fournir une eau de qualité ici en milieu urbain et dans tout le pays. Donc pour les demandeurs de forage, il leur faut une autorisation au préalable et il leur faut se rapprocher des services techniques pour s'assurer des normes de qualité de l'eau qui doit être consommée. Nous étions donc en compagnie de Monsieur Moussa Abdou Moumouni, il est le directeur général de l'hydraulique. Merci d'être venu. Monsieur Ousmane Fandi, il est ingénieur hydrogéologue et géophysicien à l'entreprise Forani spécialisée dans le fonçage des puits. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. La technique a été assurée par Mustapha Yuba. À très bientôt sur le studio de Kalangou. Au revoir.